c'est l'heure de...
Hey, t'es sûr que c'est le bon bouton ?
Galéjade.
Quoi ?
Galéjade. Sur Radio Alpa,
allez,
avec Geoffrey.
3, 4, bonjour, bonsoir auditeurs et auditrices de Radio Alpa. Vous êtes dans Galéjade pour 55 minutes de plaisir. Comment allez-vous toutes et tous ? Je sais, ça se demande pas, vous êtes à l'antenne. Enfin, je suis à l'antenne, vous n'êtes pas là, personne ne me répondra. Mais en tout cas, moi ça va pas mal, donc je tenais à vous le dire. Encore une nouvelle émission qui devrait encore une fois bien se passer. L'enregistrement est en cours. Si vous avez été attentif, vous avez pu remarquer un léger changement en introduction. Si vous voulez en parler, on en reparlera. Si vous préférez l'ancien, tant pis. Moi, j'aime bien le nouveau, donc on continuera avec celui-là. Aujourd'hui, on va faire une émission en deux parties. Donc la première partie, ça va être une interview en extérieur avec l'auteur de bande dessinée Benoît Ferroumont, qui a fait donc la série Le Royaume et qui va nous parler de son nouvel album érotique Mou. Comme vous me connaissez, j'ai fait les choses bien, je vous ai mixé l'interview en Dolby Atmos Surround. Vous m'en direz des nouvelles. Moi, perso, là, j'ai vraiment aimé. Et pour la seconde partie de l'émission, on se retrouvera donc en studio avec Elisa. Comment ça va, Elisa ?
Ça va très bien.
Et merci. C'est nickel, j'ai bien réglé le micro.
Super !
Tu vois, parfait. Et donc, on parlera de bandes dessinées pour les conseils des fêtes de Noël. Enfin, fêtes de fin d'année.
Effectivement.
Voilà, voilà. Avant de lancer donc l'interview de Benoît Ferroumont, on va s'écouter le premier son de l'émission. C'est un son de Robin Cavaillès. Ça s'appelle Vresse, il est déjà venu et on se retrouve juste après.
Where are you now? What can I do? Do you know how I feel without you? How did we get there after so long? How can I repair all that I did wrong? Tell me why do I cry when I'm alone? Why this goodbye is breaking my bones? So why don't you hear and why don't you see? What do you fear if it's not me? Oh no, but who am I now? Who am I to know the perfect way for you and I to grow? I cannot find solutions on my own. Why do you love me when things go wrong? Why do you hate me when we are strong? I feel lost without you, who whispers in my ear? What can I do if nothing is clear? Oh, where is the line and what is the goal? Cause you won't define who I am as the whole. Oh, why can't we stay forever young? Why the fuck do I have to write you this song? Oh no, but who am I now? Who solutions on my own?
Bonjour Benoît. Merci de m'accorder un petit peu de temps pour l'émission Galéjade.
Mais avec plaisir. Comme je dis toujours, dès qu'on veut parler de bande dessinée, moi je lève la main, je dis oui, ok, pas de problème. C'est déjà suffisamment rare pour qu'on parle de bande dessinée. Enfin, il faut accepter, quoi. C'est cool. Merci beaucoup de me
voir. C'est avec un grand plaisir. Et donc là, en plus, vous allez entendre un petit peu de bruit dans les alentours, puisque nous enregistrons à la fête de la bande dessinée de Bruxelles.
Ouais, il faut imaginer que nous sommes dans un hall, un gigantesque hall de gare, qui était une grande industrie avant. On appelle ça tour et taxi, parce que c'était en fait une francisation d'un truc allemand, tour et taxi, enfin, je ne sais pas très bien. C'est une industrie ici. Et donc, c'est un gigantesque hall qui vient d'être rénové, tout est en bois, comme ça, c'est très beau.
Tu es ici aujourd'hui là, sur le salon pour ton dernier album sorti, Mou, mm-hmm. aux éditions Dupuis.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous présenter cet album ?
Alors, c'est un album pour adultes qui parle de sexualité. C'est l'histoire d'un pauvre gars, un jeune homme, qui a un boulot pas très marrant, qui est livreur par vélo. Il parcourt la ville, il vit avec sa mère, qui est insupportable avec lui, il est très déceptif pour elle. Et donc un jour, par chance, il y a une jeune femme qui s'intéresse à lui.
Oui, parce qu'il n'est pas un playboy, c'est pas un séducteur.
Alors là, pas du tout, hein, c'est vraiment, c'est un peu la loose. Et donc, il y a une nana qui s'intéresse à lui, qui prend pitié, en fait, elle le voit comme un petit chat. Ça se passe bien entre eux, lui se fait draguer, il n'a jamais eu ça, il n'a jamais eu cette chance. Elle le ramène chez lui, mais ça se passe hyper mal, il est vraiment mauvais au lit, ça ne va pas du tout. Et il s'en va pendant la nuit, il prétend que tout va bien, mais en fait, il s'échappe. Et alors, il fait un truc un peu con, il se prend une boisson dans le frigo, il cherche pas ce que c'est, il boit. Et le lendemain, il se retrouve tout mou, mais tout mou au sens... totalement
comme
entier,
si, ouais, voilà,
il n'a plus d'os à l'intérieur, il devient une sorte de poulpe,
ouais.
Sorte de poulpe gélatineux comme ça, sa mère le fout à la porte parce qu'elle dit tu m'as encore fait des trucs, et il s'enfuit dans les égouts, et de là il commence une déambulation et essaie de trouver un refuge, et il tombe sur une nana qui est persuadée que c'est un alien, et il se trouve qu'il devient une sorte de mec hyper cool avec la sexualité, justement. Parce qu'il est plein de petits... plein de tentacules, de surprises, etc. Bah, il commence à devenir un phénomène dans la ville. Voilà, et c'est une déambulation d'un gars qui passe d'une femme à une autre avec beaucoup de plaisir. C'est un bouquin sur le plaisir masculin, sur les injonctions à l'érection, mais aussi sur comment... comment les rapports humains, les injonctions aussi qu'on peut recevoir.
Et sur cette partie de sexualité, où est-ce que justement, ce n'est pas forcément qu'un sexe en érection qui doit rentrer dans une femme.
Exactement, c'était un peu le grand truc, c'est on peut être mou tout en étant joyeux et intéressant au lit. Voilà.
Comment est né ce projet justement ?
Eh ben, c'est venu de là en fait, c'est vraiment venu de cette réflexion. Alors, il y a des gens qui... alors, c'est vrai qu'il y a un côté... hentai là-dedans, moi j'aime bien lire les hentai, j'adore les japonais, ils ont une sorte de folie furieuse avec la sexualité. Et c'est vrai que c'est un genre très très particulier qui sont les films de monstres avec des tentacules.
Oui, ils ont, les trucs avec les poulpes, c'est vraiment un délire qu'ils ont.
Déjà mon précédent, il y avait un côté avec les futanari qui étaient les filles avec des sexes masculins. Celui-ci, il y avait un truc avec les poulpes, ça m'avait vraiment... c'est une image qui est très forte. Qui vient d'ailleurs d'une peinture que j'utilise dans le bouquin, qui est une estampe japonaise que j'utilise dans le bouquin, qui est en français, ça s'appelle Le rêve du pêcheur.
D'accord.
Qui est une nana qui se fait. Alors les Européens y voient un viol.
D'accord.
Là où les Japonais y voient un plaisir. Culturellement, c'est vraiment étonnant. Parce que je me suis renseigné.
Le paradoxe, c'est assez...
Pour ce bouquin, j'ai lu pas mal de trucs autour de cette estampe. C'est vraiment, il y a un gap culturel. Et c'est vrai que de notre point de vue, elle peut paraître horrible, alors que du point de vue japonais, elle est le sommet d'une forme d'érotisme.
D'accord.
Et d'ailleurs, elle s'appelle le rêve du pêcheur, de la femme du pêcheur. Donc c'est un fantasme féminin, quoi. Partant de là, je me suis dit, j'ai tourné autour de cette idée. Je me souviens, c'était un peu une improvisation et ça me faisait rire d'imaginer qu'un type devienne tout mou tout d'un coup, se balade dans les égouts et devienne un phénomène. Je me dis, ah là, je tiens un truc qui va justement à l'encontre de toutes les injonctions qu'on peut recevoir en tant qu'homme. que moi j'ai reçu, j'ai 55 ans maintenant, j'ai grandi, dans ma sexualité quand j'avais 15 ans, c'était en 1985.
Ouais.
Dire quand dans les années 80, voilà, moi on me disait toujours, j'étais entouré de fanfarons, de type de tout le monde avait raconté ses performances, tout le monde racontait n'importe quoi.
Oui.
les sources intéressantes pour avoir des idées, c'était vraiment très rare, c'est très difficile. Comparé à maintenant les sources.
T'as accès à tout.
Accès
Internet.
À tout. Alors à du bien et du mal,
oui,
hein, maintenant, mais. J'ai grandi avec des modèles masculins qui étaient John Wayne, voilà, dans les films, même les films classiques, le mec emballait la fille. Enfin, je veux dire, il y avait un
oui.
Il y avait toute une imagerie comme ça.
Il y a toute une évolution maintenant quand tu regardes ces films, voilà. Où est-ce que tu te poses plus de questions sur le consentement, sur toutes ces choses-là, voilà, qu'il n'y avait pas à cette époque.
Et donc je vis comme tout le monde, comme tous les gars de mon âge, bah, une sorte de retournement avec Me Too. Tous ces mecs là qui ont harcelé des filles sur internet dans des
coins.
Moi je suis un peu effaré à chaque fois. Et je vois bien aussi, je reconnais aussi des gens de mon adolescence qui racontaient des trucs qui étaient en fait des abus. Ah bah oui, nous on acceptait tout à fait, ouais, j'ai baisé ma copine, machin, etc. Maintenant, bah, c'est totalement impossible quoi.
On est d'accord.
Et donc voilà, j'essaie de mettre pas ma pierre à l'édifice, mais de raconter aussi ce que moi je vis en tant qu'homme, etc. À travers de l'humour.
Bien
parce
sûr.
Que c'est une histoire drôle, c'est une histoire fantastico-humoristique. Mais je parle de tout ça, mais de façon un peu détournée, quoi, un peu amusante.
Oui, c'est de manière légère.
C'est une fantaisie, hein, c'est une fable. C'est fait pour se détendre.
Et justement, tu as déjà des premiers retours de lecteurs sur l'album ou pas?
Oui, j'en ai quelques-uns. Alors généralement, les gens sont assez surpris. Ils y voient. Comment dire, ils ont l'impression d'avoir une bande dessinée érotique à vertu masturbatoire, vous savez.
Ah ouais, ouais, je non.
Mais non, mais, ouais. Mais non, alors ils disent, ah c'est chouette. Et ils trouvent ça intéressant et rigolo en fait. C'est ça, la fable fonctionne. Pas mal de femmes me disent que c'est vachement chouette qu'un type parle comme ça. Ça c'est intéressant, c'est marrant. J'aime bien ce genre de retour. J'ai assez peu dédicacé parce qu'il est sorti juste avant l'été. Donc je vais dédicacer là cet après-midi. Je suis assez curieux de voir les réactions des gens. Je fais quelques dédicaces ce mois-ci, au mois de septembre. Je vais voir.
D'accord.
Voir comment ça se passe.
Parce que moi, pour avoir lu donc, ton précédent album qui s'appelait aussi Gisèle et Béatrice, je trouve celui-ci beaucoup moins cru. Enfin,
oui.
En termes de sexualité, c'est beaucoup plus suggéré dans cet album que ce que tu avais fait dans Gisèle
oui,
et
alors,
Béatrice.
Dans le précédent album, j'imaginais ce que pouvait être un homme dans la peau d'une femme. Et finalement, c'était un discours féministe. Je me suis dit, la prochaine fois que je fais un bouquin, je parle d'un homme. Je parle de ce que c'est que la sexualité d'un homme. Je me suis senti un peu coincé parfois dans Gisèle et Béatrice. Je l'ai fait avant Me Too.
Ouais.
Et après Me Too, quand Me Too est arrivé, je me suis dit, Gisèle et Béatrice, il y a un truc qui coince un peu là-dedans. Enfin, je me suis dit, la prochaine fois, je ferai attention à bien parler des hommes plutôt qu'à parler des femmes.
D'accord. C'est intéressant, c'est très intéressant d'entendre ton retour sur tout ça. Tu as fait Mou, Gisèle et Béatrice, qui sont des albums érotiques.
Mm-hmm.
Tu as un compte Instagram qui est dédié à l'érotisme,
oui.
Qui s'appelle Gracie Gimp.
Gracie Gimp, ouais.
Gracie Gimp. Où est-ce que tu publies de temps en temps des illustrations que tu fais.
Mm-hmm.
Est-ce que de ça, tu vas faire naître un recueil d'illustrations ou quelque chose?
Alors, c'est toujours, on me pose souvent la question et il y a beaucoup de gens qui... Alors ça devrait. Je ne sais pas très bien comment faire, en fait, tout à fait honnêtement.
D'accord.
Parce que j'ai pas du tout envie que ça me prenne, parce que je sais qu'on n'est pas à l'abri d'un gros succès et que ça me prenne 6 mois de ma vie à mettre des bouquins dans des paquets.
Ah oui, tu parlais de le faire en système participatif.
En crowdfunding, ce qui est un peu ce qui se fait maintenant avec ce genre de bouquins. Je vois bien que les crowdfunding. On en fait un, mais on n'en fait pas d'autre, pas deux.
Ouais.
Donc, des fois, je suis tenté de faire un petit recueil avec une vingtaine de dessins. J'en ai énormément. Hein. J'en ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'ai fait un tri il y a quelques temps, il y a un an, je crois. Je crois que j'ai 600 dessins, un truc
comme ça.
Ah oui, entre les croquis tout simples et les illustrations plus sophistiquées, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ah, c'est...
Donc, peut-être un de vos auditeurs pourra m'aider, faire un crowdfunding et je sais pas, on peut partager le truc, je sais pas. Et, ou un éditeur, voilà, je sais pas, je n'ai aucune idée. On me pose souvent la question et des fois, quand je vois les dessins, je me dis quand même, ça mériterait d'être édité parce qu'il y en a certains qui sont vraiment de qualité.
J'en ai un en tête que tu as publié assez récemment d'une jeune femme dans l'eau avec des plantes derrière, où est-ce qu'on la voit de trois quarts d'eau.
Ah oui, mais ça c'est autre chose, ça. Ça c'est un projet, c'est tout un boulot que je fais. D'ailleurs j'ai exposé chez moi dans le cadre du parcours d'artiste de Saint-Gilles à Bruxelles. C'est des recherches personnelles, il y a une histoire qui est là derrière. Et ce sont des dessins qui sont, c'est vraiment des dessins qui me détendent.
D'accord.
Tous ces dessins de plantes, etc. Ça vient d'une pratique qui a été inventée par Moebius.
Ok.
Il y a un petit YouTube comme ça, qui s'appelle la méditation pour artistes.
D'accord.
Je suis tombé là-dessus, c'est un Américain qui parle de ça un jour, et il explique que, j'ai vu Moebius un jour, il expliquait qu'il faut faire de la méditation par... et en fait, il faut laisser aller son dessin. Et j'ai commencé à pratiquer ça, et ça avait un pouvoir très très relaxant sur moi, donc j'ai continué, et il se trouve que je fais des plantes. Alors quand on fait de la méditation comme ça, alors il y a des formes qui apparaissent, soit minérales,
d'accord,
soit végétales en général. Alors, en fait, il faut laisser aller son dessin sur le papier, son crayon sur le papier, et apparaissent des formes.
Okay.
Je le recommande à mes élèves, parce que je suis aussi prof.
Oui.
Et c'est vraiment, moi ça m'a vraiment... globalement, des formes réapparaissent.
Ah ouais ?
Ouais. Et donc j'ai commencé à explorer ça, et puis je me suis dit, tiens, c'est marrant, je pourrais mettre des personnages dedans. J'ai commencé à mettre des personnages, et j'ai inventé une petite histoire. Et c'est ça que tu as vu, en fait,
ouais.
Parce que récemment, ouais, j'en ai fait quand même quelques-uns. J'ai commencé à les poster un peu de façon désinvolte, comme ça. Ça a eu beaucoup de succès, enfin, je vois bien que les gens accrochent à ça. Et je les ai exposés, et ça fascinait un peu les gens qui venaient en...
Okay, cool.
En plus, ce sont des grands A3, comme ça.
Ah, c'est sur A3
ouais,
je pensais que tu faisais sur A4.
C'est des grands A3, les gens sont toujours surpris que je dessine si grand. Bah oui, je dessine assez grand. Et c'est très amusant à faire. Mais c'est très personnel aussi. À ce moment-là, on essaie de faire le vide. Et tout ce qui est méditation, c'est très personnel, c'est très intime, en fait.
D'accord.
Et donc, je suis toujours un peu... Là, c'est autre chose, on va passer sur un autre sujet. Je suis toujours un peu fasciné de la capacité qu'ont les jeunes artistes maintenant, sur Instagram particulièrement, à montrer sans aucune pudeur leur vie.
Oui.
Moi, je suis sidéré par ça, parce que... Est-ce que je suis d'une autre époque, d'une autre éducation ? Moi, ça me paraît très, très, très difficile. Il y a beaucoup de dessins que je fais qui me sont mais beaucoup trop intimes, quoi.
Que tu peux pas... Ouais.
Je n'y arrive pas. Je n'y arrive tout simplement pas. Alors que je vois d'autres qui se livrent, mais avec une... Comment dire ? Sans filtre. Et avec... C'est heureux, hein, c'est pas ça.
Ouais, ouais.
Je citerai Alix Garin, par exemple, qui sort un bouquin que je n'ai pas lu, mais qui semble être d'une intimité.
L'année dernière, il est sorti là-dedans.
L'année passée, mais elle sort un bouquin qui s'appelle Impénétrable.
D'accord.
Qui parle de sa sexualité. Je ne sais pas, mais je ne l'ai pas lu. Mais je l'ai entendu en interview. J'ai dit, ah ouais, quand même, quoi.
D'accord.
Et je vois bien aussi une nana sur Instagram qui s'appelle Caroline Nicoulou. Elle dit sa vie, elle parle de ses problèmes intimes, de ses maladies intimes. Je dis, waouh.
Ah ouais, c'est...
Je suis un peu... Et je vois que ça répond à une forme de « Ah oui, moi aussi
ouais, »,
les gens reçoivent ça avec beaucoup de bienveillance, parce qu'ils se disent « Ah oui, moi aussi, ça m'arrive ».
Et ils ne savent pas qui en parler.
Ils ne savent pas qui en parler, il y a quelqu'un qui en parle pour eux. Donc, moi j'ai une vie d'une banalité sans nom. Hein.
Je vois le temps qui tourne, Benoît.
Oui, oui. Oui.
Je t'ai demandé avant l'interview une chanson que tu aimerais que je diffuse justement à ce moment-là. Quelle serait cette chanson ?
Alors, je vais te dire, on me demande de temps en temps, moi je prends la chanson que j'écoute
pour le
moment. Alors, je vais aller chercher sur un site de diffusion en streaming le nom de cette chanson, c'est Chapelle Rohan. Et alors, son morceau, c'est Good Luck Babe.
Good Luck Babe.
Good Luck Babe.
Donc, je lance le son et on revient juste après.
With their arms out like an angel through the car sunroof.
Retour dans Galéjade, toujours en compagnie de Benoît Ferroumont, toujours à la fête de la BD de Bruxelles. Je voulais aborder une autre partie, Benoît, de ton travail. C'est donc ta série classique que tu fais aux éditions Dupuis,
oui,
qui s'appelle Le Royaume. Les activités commencent à côté.
On va se rapprocher du micro.
Donc, ouais, comme je disais, tu as une série classique qui s'appelle Le Royaume chez Dupuis.
Oui.
Tu as déjà 8 tomes de sortie.
Oui.
Tu as sorti également l'album Dans le Royaume de Blanche Fleur.
C'est ça, oui.
Qui
a été fort mal compris, en fait. je crois que là, il y a un cas d'école. Donc on l'a sorti avec une ambition, c'est de faire un beau livre, mais c'était... Personne n'a compris que c'est la suite,
ouais,
du tome. Voilà, personne n'a compris ça.
Ah
quoi.
Ouais.
Tout le monde a cru que c'était un spin-off.
Ah non, moi j'ai bien pris, mais je le prenais comme une conclusion.
Eh ben, c'était une conclusion.
D'accord.
C'était en effet une conclusion. Je l'ai conçu comme ça. C'est conclusif dans le sens où si le public en faisait un grand succès, évidemment, j'allais continuer, j'allais pas m'asseoir. Mais ça n'a pas du tout été un succès.
D'accord.
Par contre, ce que je vais faire avec mon éditeur, c'est on va sortir l'album dans la collection complète. C'est-à-dire, comme il a été conçu, en fait. Parce que j'avais conçu ça comme un double album,
ouais,
avec deux couvertures. Et on s'est dit qu'on allait le ressortir de cette manière-là. Parce que cet album, on est vraiment passé d'un... diviser les ventes en trois, quoi. C'était,
ah ouais,
ah ouais, ouais, c'était vraiment, pour moi c'est un crève-cœur,
d'accord,
c'est terrible.
Donc ouais, en leur sortant dans la version classique,
en la version classique, ça... bah, j'espère pas, en fait d'une certaine manière ça satisfait un peu mon petit cœur d'auteur,
ouais,
parce que j'avais conçu comme ça, je l'avais vu comme ça, et puis en fait les gens n'ont pas compris, quoi. Et il y a une forme de respect, et puis du lecteur, il y a une forme de dire aussi voilà, et puis ça va faire 10 albums. Alors, pour expliquer aux auditeurs, il y a un chariot à roulettes qui vient. Il y a un monsieur qui est venu à côté de nous. Et blam, 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 blam. Et comme le sol, ce sont des pavés en pierre,
ouais,
ça fait pas mal de potins.
C'est pas
non,
grave.
Voilà, c'est une façon de respecter les lecteurs et de faire. Et même, voilà, si ça se termine, ce qui va sans doute être le cas,
d'accord,
ben ça se terminera exactement comme il faut, c'est-à-dire avec une jolie collection et comme on l'a conçu. On est en train de travailler dessus, j'ai fait deux nouvelles couvertures, on est en train de faire la bille. Ça va être des beaux bouquins, en fait,
d'accord,
ça va être assez joli. Et peut-être qu'on trouvera enfin le public qui est parti, en fait.
Ok, parce que justement, tu vois, quand je l'ai lu, moi je me suis dit, ouais, si derrière tu continues... Il y a tellement de changements qui se sont faits dans l'histoire, enfin une évolution qui est très marquée dans cet album, ce double album. On va vraiment tout avoir.
On va vraiment tout avoir.
Dans ce double album, pour continuer, tu avais déjà quand même des choses en tête, ou pas ?
Oui, oui, on avait continué, on avait vraiment... d'ailleurs, j'ai travaillé avec Clara Quadrado. Et on a un album 11 qui est un peu dans les tiroirs, qui est écrit quasiment.
D'accord.
Mais on s'est arrêté parce qu'on s'est dit, c'est pas possible, est-ce que ça vaut le coup de continuer ça,
ouais.
Et il faut dire que bon, j'étais un peu... j'ai une activité avec l'animation,
ouais.
J'ai mis beaucoup de temps entre j'ai été travailler en Espagne pendant 2 ans.
Ben ouais, justement, je sais pas si t'as le temps, mais
oui, j'ai le temps.
Je vais en parler un peu après aussi.
J'ai un peu de temps.
D'accord.
Et donc, je suis un aventurier, quoi. Donc, j'ai toujours... J'aime bien passer de l'animation à la bande dessinée parce que la bande dessinée, c'est très solitaire.
Ouais.
Et à un moment donné, j'ai besoin d'aller parler avec des gens. Mais vraiment, c'est vraiment... Et alors, l'animation, là, c'est des équipes de... entre 12 et 80 personnes. Donc,
ah ouais, ah oui, c'est vraiment des gros...
Ah oui, c'est des grosses équipes, donc j'aime bien aller batailler et faire un projet en commun, quoi. C'est toujours un peu... Là, pour l'instant, c'est dans une phase où j'aime bien d'être tout seul, mais je sais que, comment dire, à un moment donné, je vais avoir besoin d'aller parler avec les gens, quoi.
Mais justement, le Royaume, il n'y a pas de projet d'animer, de faire un anime?
Alors, il y a eu un projet en 2010, je crois comme ça, mais on avait travaillé avec France Télévisions, mais le truc ne s'est pas mis en production.
D'accord.
On a été très loin, mais finalement, France Télévisions s'est rétracté pour, je cite, s'accrocher, s'investir plus dans une marque plus connue.
Youpi,
fin de la citation.
Ok, cool. C'est vraiment sympa. Mais France Télévisions, moi, j'ai souvenir d'un projet d'animé qu'ils avaient fait sur Last Man.
Oui.
Et c'est pareil, ça avait été très compliqué parce qu'au final, il y avait eu des problèmes de fond et il y avait eu un crowdfunding qui avait été fait justement à l'époque pour pouvoir faire cette série animée.
Ouais, c'est toujours très compliqué l'animation. En fait, il y a beaucoup de matériel qui est proposé pour l'instant, mais pour l'instant en audiovisuel, mais même en bande dessinée, tout change vraiment, vraiment fort. Quoi. C'est vraiment des métiers qui sont vraiment en train de se métamorphoser. Tout est en train de changer. C'est très, très bizarre. Quoi. Comme auteur, c'est très, très étonnant.
D'accord. C'est intéressant de le savoir. Donc, ouais, dans l'animation, tu as eu un gros projet sur lequel tu as travaillé il y a quelques années, qui a eu même un prix, enfin, qui a été nommé aux Oscars.
Nominé aux Oscars. Oui, je suis même allé à Los Angeles deux fois en 15 jours, je suis désolé pour mon empreinte carbone. Mais je suis allé, c'est un film qui s'appelle Robot Dreams. En français, il a été traduit
Mon ami robot.
Mon ami robot, réalisé par Pablo Berger. Je suis allé travailler là-bas en 2021, 2022. Il est sorti fin 2023. Moi, je suis rentré en Belgique en mars 2023. Oui, le film a eu un succès critique. D'abord, on a commencé par être sélectionné à Cannes.
Ouais.
Puis, donc, on a pu monter les marches.
La montée des marches, j'ai vu ça.
Et puis, à partir de là, c'est commencé. Parce qu'une semaine plus tard, on recevait un grand prix à Annecy. Et puis, ça a été l'été. Et puis, toute l'année, il y a eu les Goya, toute la saison des récompenses qui s'est terminée en mars 2024 par les Annie Awards, où on a été nominé 5 fois. On est reparti avec le prix du meilleur film indépendant.
D'accord.
Et les Annie Awards, c'est les grands prix de l'animation mondiale. Hein. C'est vraiment
c'est
le top du top. C'est comme les Eisner Awards.
D'accord.
Plein de catégories comme ça, mais pour l'animation. Et alors, 15 jours plus tard, c'était les Oscars. On était nominés et on a été battus par un petit japonais, là, Miyazaki.
Vas-y. Il n'a pas besoin de pub, il en a déjà assez.
Bah, ça va, c'est être battu par Miyazaki, ça va.
Ouais.
Ça va, c'est pas...
Oui, tu le prends pas trop mal, quoi.
Mais les bookmakers nous ont dit qu'on était dans les votes, on était troisième.
D'accord.
Donc Miyazaki, ensuite c'était Spider-Man, et le troisième c'était nous. Donc c'était cool.
Ouais, parce que ça reste...
Voilà, mais il a eu de bronze.
Non, puis ceux en face de qui vous étiez, alors que...
Il y avait...
Tu dis Spider-Man qui finit devant, qui est un phénomène mondial.
C'est un phénomène
Miyazaki,
total.
Miyazaki qui est un phénomène mondial. Vous êtes vraiment le premier film qui arrive dans la course, qui n'est pas d'une grosse franchise ou d'un...
Qui n'est pas d'une grosse franchise, qui a un budget, Miyazaki, il a un budget de 100 millions de dollars.
Ouais.
Spider-Man, 200 millions de dollars. Nous, 5 millions d'euros, quoi, à peine.
Ouais,
encore, et pas pour la fabrication, on avait moins, on avait plus ou moins 3,5 millions pour fabriquer un film.
Et tout ça, ouais.
Ah non, ouais, et oh.
Ah ouais, non. Mais donc, tu étais responsable d'animation.
J'étais directeur d'animation.
D'accord.
Directeur d'animation. Le réalisateur est un réalisateur de films live.
Ok.
Et donc, il avait besoin d'un directeur d'animation. Donc, tous les films d'animation ont un directeur d'animation. Mais là, il avait carrément besoin de quelqu'un, il ne connaissait rien du tout. Quoi.
Okay.
Donc j'ai eu beaucoup de responsabilités, et je me suis occupé de diriger une équipe qui au total était 80 artistes, pas tous en même temps, mais au total c'est 80 des dessinateurs, enfin des animateurs, jusqu'au clean-up. Donc le clean-up c'est la mise au net des dessins et la mise en couleur.
Et donc ça prend combien de temps la création d'un film de cette envergure?
Alors moi j'ai travaillé là-dessus 20 mois.
D'accord.
C'était prévu 12 mois, mais j'ai travaillé 20 mois.
Ah oui.
Ouais. Mais le film, pendant la production, s'est complexifié. Le réalisateur, qui n'y connaissait pas grand-chose au début, a appris.
D'accord.
Pendant la production. Et il a amélioré, complexifié pendant toute la production. D'ailleurs, c'était un sujet de débat entre lui et moi, enfin, eux et moi, parce qu'ils étaient avec le directeur artistique. Je disais, mais vous êtes en train de complexifier le film, il faut faire attention, quoi.
Ah ouais, au fur et à mesure, il ne prenait pas l'ampleur de tout ce que ça allait...
Non, et voilà, il ne comprenait pas l'ampleur, ou alors il la comprenait, mais c'était un peu...
C'était pas jugé correctement,
voilà,
quoi.
Il disait, bon, bah, ils vont trouver une solution, machin, etc. Discuter avec eux, je dis, écoutez, les gars... Ah bon, c'était... Mais en même temps, le film, vraiment, moi, j'ai adoré travailler
ouais.
sur ce film.
Ouais, c'est
le film, je suis très, 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 très fier de d'avoir travaillé dessus. J'ai vu les gens, justement, le directeur artistique... Il s'appelle José Luis Agreda, il faut aller voir son Instagram, c'est merveilleux. C'est des gens de grand talent et des gens adorables aussi. C'est vraiment, travailler avec des gens comme ça, c'est vraiment super, quoi. Des gens de grand talent et adorables. Vraiment, sans problème, quoi.
Donc si demain t'as retravaillé dans l'animation et que t'as à choisir ton équipe, tu pourras prendre des personnes avec qui t'as travaillé sur
ça. Oui, non, mais l'équipe de Robot Dream, c'était vraiment excellent. En plus, dans les équipes d'animation, généralement, il y a une sorte de, comment dire, d'homogénéité socioculturelle, si je puis dire. Ce sont des gens d'un certain âge, des jeunes adultes, avec des petits-enfants, qui ont, allez, je veux dire, à peu près le même genre de... Oui, de parcours socioculturel. Là, c'était totalement éclaté, quoi.
Ah ouais ?
Ah ouais, il y avait des gens de toutes sortes d'âges, de nationalités, ils étaient réunis autour. Ouais, on avait une équipe qui était hyper étrange, hyper hétéroclite, comme ça, avec des parcours très différents et des envies très différentes. Et ça a apporté énormément. J'étais content d'avoir cette espèce d'équipe de gens très, très, très différents. Ça a vraiment bien marché.
D'accord. On arrive à la fin de l'interview. Il y a une dernière question que j'ai rajoutée juste avant qu'on démarre l'enregistrement.
Ouais.
Donc, quel est l'artiste qui t'a le plus influencé? Parce qu'on a échangé en off.
Oui, oui, non, mais je vais expliquer même aux auditeurs. On me pose souvent cette question et depuis un certain temps, j'ai toujours répondu les artistes. J'allais chercher dans la bande dessinée les artistes qui m'ont le plus influencé, c'est Peyot, Moebius, parce que je les ai lus quand j'étais adolescent ou enfant et ils m'ont marqué au fer rouge. Mais j'ai récemment vu un documentaire sur Jim Henson et en voyant ce documentaire, réalisé par Ron Howard d'ailleurs, j'ai réalisé que c'est lui en fait, c'est Jim Henson qui m'a le plus influencé. Parce que j'ai adoré tout ce qu'il a fait et ça m'a vraiment influencé dans le sens où il y avait ce côté mouvement, spectacle. Et d'ailleurs, quand je recommande Chappelle Roan comme chanteuse, elle prend des vêtements, elle s'inspire de Miss Piggy pour s'habiller. Elle copie,
sortir, ouais.
elle copie des vêtements, elle copie des tenues de Miss Piggy. Et donc, j'ai voyé les Muppets, je voyais Fraggle Rock, je voyais Dark Crystal, je voyais... Tout ce qu'il a fait, ce type-là, ça m'a influencé. Et même Sesame Street, enfin, on appelait Un Rue Sesame. Moi, j'ai pas appris à compter avec ça, mais oui, ses formes, visuellement, la manière dont il bougeait, la manière dont l'humour qu'il développait autour de ses marionnettes. Parce que le documentaire explique qu'à un moment donné, il y a tout un humour très trash. Il a commencé avec ça.
D'accord.
Et on le retrouve parfois dans les Muppets. Il se tape dessus, hein.
Ah oui,
des fois, il se tape dessus, c'est assez violent, quoi. Il explique dans le documentaire à quel point il avait un truc... Moi, j'aimais bien ça quand j'étais gamin. J'aimais bien le côté un peu trash des Muppets, des premiers trucs. C'est devenu plus gentil par la suite, mais il faisait des trucs pour adultes, mais que les enfants adoraient. Enfin bref, c'est Jim Henson.
Merci beaucoup, Benoît,
avec
pour
plaisir.
Cet entretien. Et puis, à très vite, alors.
À très vite, hein.
Voilà, c'était donc l'entretien avec Benoît Ferroumont. Avant d'enchaîner avec la partie suivante, on va écouter un nouveau son. C'est Maxence avec le titre « Du mal ».
Rien de bien méchant, à part t'éclater toutes tes dents. c'est vrai, j'ai jamais frappé, sois honoré d'être le premier. Tu as les yeux derrière mon dos, tu as les mains qui traînent trop, tu as la bouche pleine de salmos, tu as la tête d'un salaud. Chance que je perde, comprends le bien tout mon merde, pas, comprends juste que j'en ai marre, y'a aucune chance que je perde. Je prendrai pas de gants, je sais pas si tu le comprends, toi et mon poing dans ta face. T'inquiète pas, j'te jure, ça masse. T'es bon à marier mes doigts. J'sais pas si tu le conçois. Ta mâchoire est prête à prendre son envol. T'inquiète, c'est le protocole. Tu as les yeux derrière mon dos. Tu as les mains qui traînent trop. Tu as la bouche pleine de sales mots. Tu as la tête d'un salaud. Chance que je perde, comprends le bien, tu m'emmerdes, merde, pas, comprends juste que j'en ai marre, y'a aucune chance que je perde, comprends le bien, tu m'emmerdes, merde.
Et voilà, c'était donc Maxence avec le titre Du Mal, de retour dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3 Le Mans, et on attaque la partie de l'émission sur les conseils pour les fêtes de fin d'année avec Elisa.
Bonsoir les Galéjados.
Toujours ok Elisa?
Toujours, toujours.
Donc Elisa, tu es libraire à la librairie Bulle au Mans.
Oui, je crois, ouais.
Ouais, c'est ça, ouais.
Je crois, ouais.
Et tu es venue donc nous faire 3 conseils pour ces fêtes de fin d'année.
Oui, j'ai sélectionné 3 titres, un peu pour tous les styles.
Yes.
Non sans mal, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de sorties très intéressantes, surtout en fin d'année. Voilà, donc j'ai un album pour les enfants.
Voilà, par quoi veux-tu commencer?
Bah, les enfants.
Eh ben alors, on démarre avec les enfants.
Par les enfants. J'ai choisi de présenter Au Chant des Grenouilles, qui sera une série concept en 12 volumes, co-scénarisée par Barbara Canepa et Anaïs Allard, qui seront les co-scénaristes des 12 albums. Mais par contre, il y aura un illustrateur différent à chaque volume. Donc le premier volume est sorti en avril, le deuxième arrive dans 2 jours là.
D'accord.
Il sort mardi. Et c'est une BD anthropomorphique où on suit le club du samedi, qui est composé, il y a une chauve-souris, des lapins, un renard, une araignée, une chouette, un grillon, enfin il y a plein d'animaux qui sont pas forcément censés être copains.
Ouais.
Mais voilà, c'est le club du samedi et on comprend qu'il y a des choses qui les lient, mais en fait, pour être franche, dans cet album-là, il ne se passe pas grand-chose.
Dans le premier, ouais.
Dans le premier volume, il ne se passe pas grand-chose. C'est beau, c'est un conte. Ça met en place une histoire.
Et ce que tu n'as pas dit, c'est que ce sont tous des enfants.
Ce sont tous des enfants, oui. Ouais. Ce sont tous des enfants, c'est vrai.
Je pense que ça va avoir un impact sur la suite.
Je ne sais pas encore, mais je pense. C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer plus tard, mais en tout cas, on se retrouve rapidement enchanté, déjà par les beaux dessins de Florent Sacré, qui est l'illustrateur du premier album. Et du coup, ce club du samedi se retrouve tous les samedis chez la...
Ça porte son nom.
Ça porte son nom, c'est hyper logique. Chez la sorcière Urania qui leur raconte des histoires. Mais surtout, ce qui va se passer dans cet album-là, c'est que ils ont entendu parler d'un concours de pâtisserie qui va avoir lieu dans leur village. Et ils ont eu des infos un peu avant tout le monde. Du coup, ils voudraient bien se préparer à l'avance pour gagner le concours de pâtisserie, quoi.
D'accord. Et ça, c'est donc le tome 1.
C'est le tome 1, voilà. C'est le tome 1 qui est sorti en avril. Et je pense que je vais me jeter sur le tome 2, qui sera illustré par Jérémy Almanza.
Ouais, 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 pareil. C'est un style différent, mais ça reste très beau ce qu'il fait, je trouve.
Mais enfin, il y a tout ce qui est prévu, tous les illustrateurs prévus, en tout cas pour les 6 premiers albums, ont des styles complètement différents. Et je pense que ça va être hyper intéressant de suivre les mêmes personnages, mais avec différentes visions, en fait. Ça peut être super intéressant.
Et c'est à partir de quel âge ?
Pour moi, à partir de 7 ans, sans problème.
Okay.
Et ça plaît aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Donc,
je confirme.
Alors, je pense que je suis une adulte, donc c'est bon.
Deuxième album, on part sur quelque chose plus...
On va partir sur du manga. Mais
d'accord.
Du manga seinen. C'est pas du manga tout
public.
Ah
ouais, adulte.
Un peu adulte. Enfin, à partir de... En fait, on part du principe qu'à partir de 14-15 ans, on est adulte en manga. On
d'accord.
peut lire des choses...
Okay.
Le titre c'est Amo, chasseuse de dieux, par Nobuaki Tadano. C'est un manga qui est sorti en 2017 au Japon,
ah ouais,
en
d'accord.
trois volumes. Ça n'a pas été édité en France avant la semaine dernière.
Ils ont sorti les trois volumes d'un coup ou
Ils ont sorti une intégrale,
okay,
un seul volume, donc un beau pavé de plus de 600 pages.
Ouais, mais bon, au moins, t'as l'histoire complète. Là.
Ouais, et puis ça se lit très bien. Et du coup, l'histoire se passe dans un village de chasseurs-cueilleurs où il n'y a que les hommes qui sont censés aller à la chasse.
D'accord.
Et donc, vous me voyez arriver, Amo, l'héroïne, chasse avec son ami Manza. Elle va régulièrement chasser avec lui. Et en fait, ça va contrarier Yamagami, qui est la déesse qui est censée protéger le village, la déesse des animaux de la montagne. Et en fait, elle est contrariée notamment parce qu'elle est tombée amoureuse de Manza, donc l'ami de l'héroïne.
D'accord.
Et du coup, ça va pas se passer très très bien. Amo va se retrouver forcé à l'exil par tout son village.
Okay.
Parce que du coup, la déesse a kidnappé Manza.
D'accord.
Et en fait, on va suivre la quête vengeresse d'Amo qui va, par tous les moyens, essayer de retrouver son ami. Et du coup, comprendre que la déesse est peut-être pas forcément une personne... sympathique. Voilà.
Ok.
Donc c'est très beau. Les dessins sont magnifiques. Ça rappelle un peu l'univers Ghibli.
D'accord.
Mais en un peu plus trash quand même.
Bah Ghibli, c'est pas seinen. Hein.
Alors, c'est pas Ghibli. Alors, il y a plusieurs degrés de lecture.
Ouais.
Alors que dans Amo, c'est cache-pistache.
Ça marche. Et donc, ça, pareil, ça vient de sortir, disponible.
C'est sorti, ouais, le 20 novembre.
Ok, et le troisième conseil ?
Le troisième conseil, du coup, bah, il en faut un peu pour les adultes. Là, ça a été clair, ça a été un gros coup de cœur par toute la librairie.
Les Schtroumpfs ?
Le nouvel album des Schtroumpfs, exactement. Non, c'est les Navigateurs.
Ok.
Les Navigateurs, qui est un thriller fantastique de Serge Lehmann et illustré par Stéphane de Canva.
Ah, il vient de remporter un prix là-dessus, je crois.
Exactement, ouais. Et du coup, là, on suit Neige, qui est une femme qui revient après 20 ans dans son village près de Paris. Elle retrouve sa bande de copains. Et les garçons, eux, sont toujours restés en contact. Donc, il y a Arthur, Max et Sébastien qui se voient régulièrement. Et Neige revient. Et en fait, Max... qui a été amoureux de Neige, en fait.
D'accord.
Ça, du coup, ça réveille un peu ses sentiments amoureux et il va essayer de peut-être recommencer là où il s'est arrêté parce qu'elle est partie brutalement du jour au lendemain. Et
ok. Et il y avait quelque chose qui était en train de se profiler.
Voilà.
Peut-être. Ok.
Voilà. Et en fait, si Neige est revenue d'Angleterre, c'est que... Enfin, ça, on va l'apprendre plus tard, je vais pas raconter. Mais en fait, si elle les a recontactés, c'est surtout parce qu'elle est en train de retaper la maison de ses parents.
Mmh.
Et en fait, elle a découvert une fresque derrière une tapisserie, tapisserie assez solide, faite avec du fil de cuivre et tout. Donc,
ah ouais, un truc qu'on voulait pas enlever.
Voilà. Et cette fresque-là représente un paysage marin de nuit, et c'est assez sombre, il y a une araignée un peu inquiétante. Et du coup, les Max et ses copains, ils vont essayer de
savoir
comprendre,
ce qui se cache.
Voilà, savoir ce que cache. Et un soir, ils décident Max voudrait revoir la fresque. Il entend un bruit déchirant, ça réveille tout le quartier. Et en fait, Neige, elle a disparu. Et il y a une femme qui est apparue dans la fresque avec le même tatouage que Neige. Et du coup, bah, ça va un peu précipiter les recherches, quoi.
Et ça, c'est la fin du tome 1.
Et... non, c'est un one-shot. C'est un one-shot, mais du coup, c'est un super album. Au fil des pages, ça devient de plus en plus oppressant, presque cauchemardesque.
Et il a l'air très bien, cet album.
Il est très bien. Est très bien et c'est magnifique. Après, c'est le scénario de Serge Lehmann, on n'est jamais déçu, quoi.
Il est très doué. Donc, si on récapitulatif... Ouais, j'arrive même pas à dire le mot. Voilà, si on récapitulationne. Voilà, c'est ça, si on fait ce truc-là. donc, on est sur 3 albums. Ouais. Il y a Le Chant des Sirènes.
Au Chant des Grenouilles.
Au Chant des Grenouilles. Je suis tellement à côté. Et je te laisse dire les deux autres parce que je...
Au Chant des Grenouilles pour les enfants à partir de 7 ans.
Ouais.
En manga à partir de 15 ans, 14-15 ans, il y a Amo, Chasseuse des Dieux. Et pour les adultes, Les Navigateurs.
Ça marche. Merci Elisa pour ces conseils de fête de fin d'année.
De rien, Geoffrey.
C'était avec plaisir. On va enchaîner avec le dernier son de l'émission. Alors, c'est un son qui est extrait d'un générique de dessin animé. C'est le générique de Dan Dadan. Le titre s'appelle Otonoke. Et on revient juste après.
Mero te
voilà, c'était donc le générique de Dandadan, Otonoke. C'est la dernière partie de l'émission, c'est les recommandations culturelles. Ça va être très rapide puisque j'ai pas demandé à Elisa de faire une recommandation culturelle, donc je vais la faire en solo. Comme vous venez de l'écouter, c'était donc le générique de Dandadan. C'est un manga qui est sorti chez qui déjà? Si tu le sais, tu l'as peut-être pas de tête. Kurokawa? Non.
Non.
Bref, c'est sorti. Il y a 14 tomes pour le moment. Ça raconte l'histoire de Ken Takakura, qui se fait surnommer donc Okarun. C'est un jeune garçon qui croit dans tout ce qui est extraterrestre, UFO et tout phénomène en tout genre, paranormal, mais vraiment lié aux étoiles, à l'espace. Un jour, il rencontre une jeune fille qui s'appelle Ayase, Momo Ayase, qui, par un concours de circonstances, voilà, ils se retrouvent à discuter tous les deux, et elle lui dit qu'elle ne croit pas aux extraterrestres. Par contre, elle croit aux esprits.
Aux esprits, ouais.
Donc, lui, il se moque d'elle parce qu'il ne croit pas aux esprits, mais il croit aux extraterrestres. Elle se moque de lui parce que c'est l'inverse. Donc, ils se lancent tous les deux un défi. C'est simple. Si toi, tu veux voir des esprits, tu vas à tel endroit. Et si toi, tu veux voir des extraterrestres, tu vas à tel endroit. Bon, bien sûr, l'un comme l'autre n'ont jamais vu ni l'un ni l'autre. Sauf que là, ce moment où ils sont chacun à l'endroit de l'autre, ils rencontrent extraterrestres et esprits. Et c'est comme ça que se lance Dandadan.
C'est paru chez Crunchyroll.
Ah oui, c'est vrai, c'est ça.
Bah oui.
Crunchyroll. J'avais complètement zappé. Mais donc, c'est vraiment très bien. Pareil, en termes de lecture, je ne mettrais pas ça dans les mains d'enfants.
Non, le premier volume, il est un peu trash.
Ouais, le premier volume est un peu trash.
À partir de 14 ans, je pense.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais.
Et l'animé est disponible donc sur Crunchyroll.
Aussi.
Et sur Netflix. Deux VF différentes, ce qui est assez particulier.
Ouais.
Et donc, si vous voulez découvrir ce manga, ça s'appelle Dandadan. Et c'est vraiment très, très innovant. Ça change des mangas habituels, je trouve.
Ouais, complètement.
Et il renouvelle le genre du shonen. C'est pas un neketsu comme ils disent. J'y connais que dalle. j'aime les mangas, pourtant. Mais moi, tous les termes techniques, c'est pas mon délire. Donc voilà, Dandadan, c'est chez Crunchyroll et disponible à la librairie Bulle.
Oui.
Enfin, c'est aussi disponible à la Fnac, Cultura et tout ça, mais faut pas y aller.
Plus à la librairie Bulle.
Donc voilà, Galéjade touche à sa fin. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le Insta de l'émission, Galéjade_émission, sur Facebook, Galéjade.émission. En podcast sur le site de Radio Alpa et sur toutes les autres applis de podcast. Si vous écoutez le direct, on va vous laisser avec Delphine et Vertige. Si vous écoutez l'Ardif, je vais vous laisser avec Oblique. Et si vous écoutez le podcast, honnêtement, faites-vous plaisir. Écoutez ce que vous avez envie. Passez un très bon moment. Merci encore, Elisa.
Merci, Geoffrey.
À très vite.
C'est l'heure de...
Hey, t'es sûr que c'est le bon bouton ?
Galéjade.
Quoi ? Ouais,
Galéjade sur Radio Alpa avec Geoffrey.
Allez, viens, 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 viens.